Soyez les bienvenus sur Tendance Ouest, Tendance Confidence. Aujourd'hui, votre magazine vous propose une rencontre avec un passionné de l'écriture, un passionné de l'édition, mais aussi un passionné du rugby, puisque c'est également un joueur de ce sport. Aymeric Janson, bonjour.
Bonjour.
Avant que nous ne chaussions les crampons pour parler rugby, parlons avec vous d'un métier qui est aussi votre passion, l'édition, et vous êtes évidemment passionné par l'écriture.
En fait, j'ai trois métiers pour me présenter simplement. Je suis éditeur, je suis entré dans la vie professionnelle par ce biais-là. J'ai travaillé notamment pour le groupe Bayard, j'ai une petite maison d'édition qui s'appelle Baribal, que j'ai lancée en 2019. Par ailleurs, je suis auteur depuis une douzaine d'années à peu près. J'écris beaucoup pour les enfants, un tout petit peu pour les adultes. J'écris du roman et puis du livre documentaire, qui parle pour certains du rugby effectivement. Et puis troisième métier, en fait, je suis éditeur externe en bande dessinée, qui reste une spécialité pour moi, parce que j'ai dirigé pour Bayard pendant 10 ans le label Jeunesse. Voilà, donc je suis éditeur, auteur, et puis éditeur externe en bande dessinée.
Parlons de ce sport qui est aussi une passion pour vous, puisque vous l'avez exercé, le rugby.
J'étais troisième ligne centre, donc j'ai joué effectivement le dernier poste dans la mêlée. Quand on regarde une mêlée installée, c'est le dernier joueur qui sort le ballon. Effectivement, le rugby, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi et qui a changé ma vie. Je peux le dire, qui m'a vraiment structuré profondément. Je suis un grand gabarit. Enfin, voilà, la radio permet pas de me présenter mieux que ça, mais je suis plutôt un costaud. Effectivement, le rugby, c'est une école de vie. On l'entend souvent, mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Et on parlait d'empreintes. C'est amusant. J'ai cette image des crampons, donc des 2x8 crampons, qui effectivement permettent, quand on est sur le terrain, d'être ancré dans le sol. Il y a quelque chose vraiment avec les racines, je crois, qui se joue dans ce sport. Enfin, je suis vraiment très bien physiquement quand je suis en crampon sur un terrain. Pour moi, c'est quelque chose qui est devenu presque une métaphore de la vie, quoi.
Alors, comment réagissez-vous lorsque des personnes vous disent que le rugby est un sport de force, mais aussi un sport qui peut apparaître violent ?
Le rugby est un sport d'engagement, au sens où on joue avec tout son corps, et c'est finalement de l'engagement que naît la possibilité de faire avancer le ballon. Donc c'est quelque chose qui est très important. En revanche, il y a un corpus de règles qui est quand même complexe et assez fourni, qui permet de canaliser cet engagement pour que justement il se transforme pas en violence.
Et quel lien pourriez-vous établir entre le rugby et le monde de l'édition ?
C'est très intéressant, je trouve, de rapprocher le travail de l'éditeur, qui est un travail où on est fil rouge d'un projet, on est un petit peu chef d'orchestre, on fait travailler plein de gens qui se connaissent pas forcément, d'ailleurs, et c'est souvent des externes. On les fait travailler ensemble, dans le bon ordre, si je puis dire, sur la même copie pour l'améliorer progressivement et aboutir à quelque chose qu'on va choisir de fixer, c'est-à-dire d'imprimer. Une fois que c'est imprimé, c'est fait, c'est donné au monde, c'est trop tard. Et finalement, sur le terrain de rugby, on va aussi associer des talents, des gabarits qui sont très différents. L'objectif, c'est juste de déposer le ballon dans l'embut adverse. Mais là aussi, il y a une œuvre collective et il y a quelque chose de très fort qui se joue dans la fraternité, une vraie fraternité à la fois de terrain et, je pense, dans l'entreprise, quand c'est mis en place correctement.
Et lorsque vous entendez parler de maillon faible sur un terrain de rugby, comment réagissez-vous ?
L'expérience qu'on fait sur un terrain de rugby, c'est qu'on est tous des maillons faibles, mais pas au même moment. Et c'est ça la magie du collectif, c'est qu'en fait, on va prendre un mauvais coup ou on est simplement dans un mauvais jour, on va rater un certain nombre de choses. Mais c'est une dimension, la dimension collective, et puis plus est au rugby dans sa forme traditionnelle, on joue à 15, hein, c'est vraiment un collectif assez nombreux, assez complexe. C'est quelque chose qui, moi, me rassurait beaucoup, me dire que ma performance personnelle serait lissée finalement par la moyenne de la performance de tout le monde. Finalement, c'est un peu comme dans le couple, on dit 1 plus 1 égale 3, au rugby c'est un peu la même chose. On n'est pas la somme de 15 individualités, on est, quand on joue vraiment tous ensemble, quelque chose qui est au-delà de ça, qui est supplémentaire. Voilà, le copain qui va rater un plaquage ou celui qui laisse tomber le ballon, quand on joue vraiment collectif et quand on joue au rugby au sens plein du terme, ça fait totalement partie du jeu.
Est-ce que vous constatez un jeu technique différent lorsque des femmes jouent au rugby ou bien des hommes ?
Elles ont une façon bien à elles, en fait, de jouer. Il y a une manière de porter le ballon, de chercher l'espace, de le faire vivre, en fait, qui est différente des hommes. Il y a peu ou moins, en tout cas, de ce qu'on appelle le pick and go, c'est-à-dire le fait de porter le ballon pour tout de suite taper dans la défense. Et puis, ce jeu d'usure-là est moins présent. On essaye de chercher quelque chose qui est un peu plus aérien et vraiment, oui, très intéressant.
Mais qu'en est-il du respect du corps dans le sport de haut niveau ?
Très spontanément, la première qui me vient, c'est l'échec de ce qu'on vient de dire, c'est le dopage, la façon dont effectivement on va tricher pour un certain nombre de raisons, mais on va surtout tricher d'abord contre soi-même. Ce que je trouve magnifique dans le sport, c'est qu'on a tous le même corps sur lequel on peut travailler. On est amené à épanouir quelque chose, développer des choses, créer dans la mesure du possible, dans le fair play, en respectant l'adversaire.
Et que ce soit sur le terrain de la vie ou sur un terrain de rugby, que vous inspire Aymeric Janson, beauté en touche.
Alors, botter en touche n'était effectivement pas vraiment mon travail sur le terrain. Moi, j'étais là pour concentrer la défense et faire des trous dans la mesure du possible. Si botter en touche veut dire s'échapper ou gagner du terrain, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je trouve intéressant dans le rugby lui-même, c'est que précisément c'est un sport où on peut pas s'échapper. C'est-à-dire que si on fait pas le travail qui est, par exemple, en défense de plaquer, de faire tomber le joueur qui porte le ballon, ça veut dire que forcément quelqu'un d'autre va le faire ou alors toute l'équipe est en faillite. Et finalement, il y a quelque chose métaphoriquement de très fort là-dedans qui est de prendre sa charge, de prendre ses responsabilités, parfois de se tromper, mais en tout cas d'y aller pour épargner ses frères.
Mais d'avoir une équipe en face de soi, c'est aussi une belle complémentarité de respect aussi de l'équipe adverse.
Respecter l'adversaire, pour moi, c'est quand on sait ou on sent qu'on a fait mal à un adversaire, c'est venir prendre de ses nouvelles quand c'est possible, c'est prendre le temps du débrief à la fin du match, de la collade. Il y a une formule d'Antoine Blondin que j'aime énormément, qui est un auteur français qui disait que finalement, au rugby, on est moins dans une situation où on se bat contre un adversaire, mais on est dans une situation où on joue avec lui. Finalement, pour un beau match de rugby, il faut deux équipes qui aient vraiment envie de jouer, pas de se détruire l'une l'autre ou pas d'être dans une guerre stérile. Qu'est-ce qui fait que dans mon quotidien, localement, à l'endroit où je suis capable de venir en aide à des gens ou en tout cas de me montrer solidaire d'eux? Le rugby nous montre ça sur un terrain, puisque si on n'est pas solidaire, en fait, on ne peut pas gagner. La solidarité, c'est vraiment une des vertus cardinales du sport d'équipe. Mais dans la vraie vie, c'est la même chose. Et pour ça, il y a plein de terrains différents, en fait. Le terrain associatif, le terrain du sport, on en a parlé. Le terrain paroissial, pourquoi pas. En entreprise aussi, on peut assister à ce genre de choses. Donc, à chaque endroit où je me déplace, quels sont les liens solidaires réels, authentiques, que je peux créer? Et très souvent, c'est pas exactement ce dont on entend parler. C'est des choses qu'il faut recréer. Il y a quelque chose de vivant là-dedans.
Et comment ne pas voir aussi un beau geste de solidarité à la fin des matchs de rugby, cette haie d'honneur?
Que l'équipe qui gagne fait une haie, donc se répartit en fait sur deux colonnes pour que l'équipe qui a perdu passe au milieu et soit félicitée. Et juste au bout des deux colonnes, finalement, c'est l'équipe perdante qui fait la même chose, qui rend l'appareil à l'équipe qui a gagné. Et là aussi, on est vraiment dans la tradition de fair play en fait, de ce sport qui est aussi inhérente à l'engagement dont on parlait. On a besoin de ce miroir-là. Et il y a évidemment aussi au rugby ce que les gens souvent connaissent en se cuisant les deux premières, qui est la troisième mi-temps. La troisième mi-temps qui est une tradition légendaire de fête plus ou moins maîtrisé, souvent quand même assez maîtrisé, où précisément avec l'adversaire, en fait, on prend le temps d'un repas, le temps de vraiment de d'échange, et puis un vrai temps de fête où on va chanter. Le chant est très important au rugby, en tribune, et puis ensuite un moment où on est ensemble. C'est vraiment un moment, on parlait de solidarité, c'est aussi un moment de solidarité, de fraternité, c'est un moment de respect profond de l'autre.
Tendance Confidence aujourd'hui avec comme invité Aymeric Janson, passionné par le rugby en tant que joueur et puis aussi passionné par le monde de l'édition. Ces deux domaines, Aymeric Janson, ont un point commun, le travail d'équipe.
Ce métier qui est un métier d'accompagnateur, essentiellement du créatif qui est l'auteur, on fait équipe avec lui. Je crois qu'en fait un bon éditeur, c'est parvenir à rejoindre quelqu'un dans quelque chose d'assez mystérieux, d'assez vital, qui s'appelle l'écriture. Donc, l'éditeur, c'est vraiment le premier soutien. Donc, c'est la personne qui, en premier cercle, en fait, va faire le ping-pong avec l'auteur, le soutenir, répondre à ses questions, lui donner son avis quand il y a une relation de confiance, en fait, qui a pu se bâtir entre l'un et l'autre. Il porte le même maillot, en fait, que son auteur. De la même manière qu'on est sur le terrain et qu'on va on va mouiller le maillot ensemble, de la même façon, l'objectif de l'éditeur, c'est le même que celui de l'auteur, c'est que le livre trouve son public. C'est ça la recherche.
Et ce support qu'est l'écriture, ce support qu'est le livre, permet un beau point de rencontre entre l'éditeur, l'auteur et le lecteur.
Oui, tout à fait. Un livre, c'est un vecteur, en fait. C'est une forme d'objet transitionnel qui permet d'amener un message à un destinataire qui, quand on a dit ça, montre bien l'extrême complexité et l'extrême difficulté aussi de ce métier de création. Et voilà, quel format, quelle pagination, quelle apparence, pour le ranger ou en librairie, etc. Toutes ces questions-là sont des questions un peu technique, mais quand même beaucoup des questions d'instinct. Le lecteur, effectivement, est celui qui fait le succès du livre, évidemment en premier lieu parce que le livre se vendant, il rentre dans une économie qui fait que l'éditeur puis l'auteur peuvent en vivre et que c'est évidemment une très bonne chose, mais aussi parce que un livre est écrit pour être lu et un livre c'est un message.
En tant que joueur de rugby avec le maillot numéro 8, Aymeric Janson, vous avez inscrit vos empreintes avec les crampons sur les terrains. Est-ce qu'on peut dire qu'en tant qu'auteur et éditeur, vous êtes devenu un sculpteur des mots avec un stylo?
Sculpter les mots, en tout cas, c'est ce que j'aimerais faire, j'essaye de le faire. C'est vrai que ce métier, cette occupation, ce travail d'auteur est quelque chose qui amène à réfléchir profondément à ce qu'est le langage, au rapport au langage. Qu'est-ce que ça veut dire choisir un mot plutôt qu'un autre, travailler le rythme d'une phrase, décider que là, non, décidément, ça marche pas et on sait pas trop pourquoi, mais on sent que ça marche pas, etc., etc. C'est finalement entretenir une forme de rapport assez tellurique, en fait, avec ce sédiment profond dont on vient tous, qui est le langage, qui est juste à la base ce qui nous permet d'être ensemble, hein, de communiquer.
Comment trouver l'équilibre entre les couleurs, les formes que l'on trouve dans une bande dessinée, et puis également ce qui va être écrit par l'auteur?
C'est la grande question de la bande dessinée, effectivement. Alors qu'on définit souvent comme un art séquentiel, hein, ce qui met en avant d'abord le graphisme, qui effectivement est composé à nouveau assez mystérieusement pour 50% de texte et pour 50% d'image. Et voilà, il y a cette espèce de symbiose en fait entre le texte et l'image qui fait que là encore, les réglages pour parvenir à une bande dessinée qui est performante, je reviens à cette idée qu'il y a un message en fait qui doit être transmis, il y a une tonalité qu'on cherche à incarner aussi, cette tonalité c'est plus ou moins d'humour, est-ce qu'il y a du second degré ou pas du tout, est-ce qu'on est dans une tension aventure, dans ces cas-là c'est vraiment le rythme qu'on va chercher, tous ces éléments-là en fait, le volume de texte et le dessin choisi nous permettent de le définir, de le suggérer au lecteur et de façon finalement assez instinctive. Le lecteur qui n'est pas un spécialiste de bande dessinée ou qui lui-même n'est pas éditeur ne va pas analyser ce qu'on lui propose en termes de registre de langage d'un côté et de choix de dessin de l'autre, mais c'est l'addition des deux et surtout la fusion des deux ensemble qui est le produit de la bande dessinée et qui est opérant ou pas dans ce qu'on cherche à faire passer comme message.
Parlez-nous de cette bande dessinée que vous avez fait éditer chez Salvatore et qui a comme titre « Père Elijah ».
Alors ce roman, j'ai énormément de chance parce que je travaille sur ce qui a été pour moi un coup de cœur de lecture il y a un certain temps. Effectivement, ce roman édité en français par les éditions Salvatore, donc ce roman qui s'appelle Père Elijah. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'auteur qui est Michael O'Brien, il y a cette propension en plus, cet amour du dialogue et notamment du dialogue fourni avec beaucoup de choses qui se passent en termes psychologiques dans l'évolution des personnages. On part sur un format bande dessinée qui est classique, c'est-à-dire qu'on a une bande dessinée qui va faire aux alentours de 55 planches, et en soi, on a segmenté, découpé du mieux qu'on pouvait en trois livres, donc ce sera un triptyque. Le deuxième est en cours de réalisation, le premier vient de sortir aux éditions Salvatore, et tous les trois seront sur le même format.
Mais qui est ce Père Elijah pour avoir un sous-titre, une apocalypse? Et je rappelle que l'apocalypse signifie aussi la révélation.
Alors Père Elijah est un personnage qui est celui par lequel un coin du voile va se lever, mais qui est un peu malmené par un adversaire qui est très puissant. Et puis on va s'apercevoir progressivement que d'une part les choses sont pas tout à fait ce qu'elles sont, mais que la conjuration a une taille beaucoup plus importante que ce qu'on pensait. Salvatore a parlé de thriller religieux parce que on accède à un degré de lecture psychologique et même spirituelle des personnages qui est vraiment rare. Et il y a quelque chose, effectivement, un petit peu comme une dragée plus qu'une amande. Vous avez un emballage autour qui est sucré et l'amande est cachée à l'intérieur. Et en fait, pour moi, Père Elijah, c'est un peu ça. Il y a du sucre autour, c'est un thriller. Mais quelque part, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est autre chose, qui est très original, très singulier. Et c'est un roman qui, effectivement, s'appelle Une apocalypse.
Une véritable intrigue hein, que ce numéro 1 de cette trilogie autour de Père Elijah. Je rappelle que ce livre dont l'auteur est Michael D. O'Brien s'est vendu à 700 000 exemplaires, il me semble.
J'ai pas les chiffres en tête, en fait, notamment pour la France et pour le monde, mais ça a été un succès. Je crois qu'il a été traduit dans plus de 25 langues. Donc c'est un phénomène éditorial. Et le fond du roman, c'est la trajectoire de ce personnage principal qui est le Père Elijah, qui est donc le héros éponyme, en fait, hein, du roman, qui en fait est un moine carme qu'on va sortir de son monastère en Israël parce qu'il est convoqué au Vatican pour une raison qu'il ignore et qui va être investi d'une mission très particulière puisque il est envoyé rencontrer celui qui, dans un monde qui ressemble beaucoup en fait à celui dans lequel on est aujourd'hui, celui qui est la nouvelle étoile montante politique, qui est le président des Nations Unifiées. Et ça, je vous laisse découvrir la suite.
Père Elijah, une apocalypse, c'est paru chez Salvatore. Et vous en coordonnez l'édition, c'est bien cela, Aymeric Janson?
J'interviens en lien avec la maison d'édition elle-même pour un livre qui est publié dans le catalogue de Salvatore. Voilà, je suis un relais technique à l'extérieur de la maison.
Vous intervenez, Aymeric Janson, notamment en master à la Sorbonne, et vous participez régulièrement à des jurys de diplômes.
Il y a toute une partie de mon travail, mais y compris comme éditeur et comme directeur de collection, qui est, si je puis dire, d'essayer de faire la courte échelle à des jeunes qui rentrent dans le métier. Alors, ça peut se faire de façon opérationnelle sur un premier projet sur lequel il faut travailler pour le rendre présentable, pour qu'il soit publié chez un éditeur. Mais il y a d'autres manières qui sont celles d'aller au contact des étudiants, qui sont des jeunes garçons et filles qui sont dans des écoles d'art et qui se préparent à faire de l'illustration ou de la bande dessinée, etc. Et on est là ensemble pour essayer de développer les meilleurs projets possibles. Certains on y arrivera, d'autres pas.
Je rappelle que vous êtes éditeur, auteur, Aymeric Janson, et aussi donc le numéro 8 pour le maillot de rugby. On a parlé de crampons, ces empreintes que vous laissez sur un terrain, mais aussi ces empreintes que vous laissez, qu'on appelle l'écriture. Que direz-vous à Dieu à la troisième mi-temps de votre vie?
J'ai spontanément deux idées qui me viennent. Il y a l'idée de Bernanos sur son lit de mort qui disait « à nous deux ». Et puis il y a cette phrase sempiternelle des Anglais quand ils terminent un match de rugby qui viennent vous serrer la main en vous disant « good game ». Ce sera sans doute un peu des deux.
Merci Aymeric Janson.
Merci beaucoup de votre accueil.